à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Salam alaikum, chers auditeurs. Notre petite sœur Emmanuelle du Caire aimait son Église et savait que son Jésus hostie, dont elle vivait et où elle sourçait toute son action, était consacré par le prêtre, et elle respectait à ce titre la hiérarchie de l'Église et l'aimait. Attention aux récupérations mensongères dans une certaine presse libérale. Être chrétien, c'est être et devenir un être d'amour et de lumière. L'autre, le frère sur ma route, est un sacrement, un mystère d'altérité et de communion. Il est la manière dont l'Église approche l'homme dans la présence du Christ crucifié et ressuscité qu'on célèbre dans la liturgie eucharistique. Le sacrement du frère représente l'attitude pratique de l'Église envers l'homme lorsqu'elle contemple et confesse, célèbre l'approche du mystère de l'infini amour divin pour l'homme, ou le mystère de l'humanisation de Dieu, afin que l'homme puisse devenir Dieu par la grâce. Pour les apôtres et les pères de l'Église, la contemplation de ce mystère fondamental était la source de toute la théologie, de toute la vie spirituelle et de toute la mission de l'Église dans le monde. Le Fils de Dieu, devenu homme par son amour infini pour l'homme, assume la condition humaine jusqu'à la mort, pour ensuite libérer l'homme de la mort par la résurrection et lui donner la vie éternelle. Saint Jean l'Évangéliste contemple lui aussi le grand mystère du Verbe, du Logos, de la parole du Père incarné, et il précise que parce que le Fils unique est devenu homme, il a donné à tous les hommes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12-13. Par conséquent, tous les êtres humains qui acceptent le Christ sont des frères et des sœurs en Christ, non pas sur une base d'une parenté biologique, mais sur la base de l'adoption divine par la grâce. Saint Irénée de Lyon dit « Le Fils de Dieu se fait homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. » Ainsi, depuis l'incarnation du Fils de Dieu, existe dans la Sainte Trinité un cœur humain plein de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. L'amour éternel du Père envers le Fils est maintenant aussi amour éternel pour l'homme. Or, comme Dieu se manifeste dans son amour, chaque être humain aimé par Dieu est un lien sacramentel de la présence même du Christ. Le mystère du frère est ainsi le mystère de l'amour du Christ présent dans chaque être humain. Dieu, dit Maxime le Confesseur, s'est fait mendiant à cause de sa sollicitude envers nous, souffrant mystiquement par sa tendresse jusqu'à la fin des temps, à la mesure de la souffrance de chacun. Déjà, au début de sa prédication, Jésus montre que l'amour envers Dieu est inséparable de l'amour envers le prochain, et que le culte rendu à Dieu le Père doit être précédé par la réconciliation avec le prochain. Je le cite, « Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Matthieu 5, 23-24. Il faut souligner aussi que l'institution de l'Eucharistie par le Christ lui-même, avant sa passion, a lieu après qu'il ait montré beaucoup de compassion envers les êtres humains en détresse. avant d'instituer donc le repas mystique du royaume à venir, le Christ a annoncé le royaume par des paroles et par des actes de vie. Il a guéri des malades, rassasié des affamés, purifié des lépreux, chassé des démons, ressuscité plusieurs morts, dont son ami Lazare. Le Christ a institué ensuite le lavement des pieds des apôtres, le service comme lieu où l'Eucharistie répand ses énergies de communion divino-humaine. En d'autres mots, le sacrement du frère, en tant que réconciliation et service, précède et suit la célébration de l'Eucharistie. Le lien entre le sacrement du frère et le mystère de l'Eucharistie est mis en évidence par le Christ lui-même, non seulement avant et dans sa mort sacrificielle sur la croix, lorsqu'il pardonne à ses ennemis, mais aussi après sa résurrection d'entre les morts. En ce sens, le récit de l'étrange pèlerin vers Emmaüs, Luc 24-13-32, qui ne dévoile son identité qu'après avoir été accueilli dans la maison et invité à table, reste la plus forte et mystérieuse expérience pascale qui permet à l'Église de parler du sacrement de frère. Je cite Luc 24-28-31. Lorsque Luc et Cléopas furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Un étranger, un inconnu, un pèlerin qui a son propre chemin à parcourir et pourtant, à un moment donné, s'approche et fait route avec d'autres pèlerins, participe à leurs difficultés à comprendre comment Dieu agit parmi les hommes et comment les hommes répondent à Dieu. Interprète de l'Écriture, de cette difficile et fascinante histoire d'amour de Dieu envers les humains, Jésus, ressuscité, reste caché, étranger et inconnu, jusqu'au moment où il est accueilli dans la maison et invite à la table. Et une fois accepté, il préside la communion des cœurs et habite mystiquement notre vie en devenant lui-même la vie de notre vie. Une vie qu'on ne possède jamais, mais qu'on ne peut qu'accueillir, car elle est totalement don de soi à l'autre. Amour divin désintéressé. Peut-on dire que l'événement mystérieux d'Emmaüs anticipe en quelque sorte la perception du mystère du jugement dernier selon l'unique critère, la présence inconnue et cachée du Christ dans chaque être humain qui a besoin de notre aide, de notre compassion, de notre sympathie, de notre prière. Le jugement dernier, décrit par l'Évangile, Matthieu 25-31-46, révélera au grand étonnement de tant de justes que des méchants que le sacrement de la présence interpellante, bien que discrète, du Christ dans les êtres humains en souffrance ne dépend pas de notre perception ou de notre interprétation. Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » La présence mystérieuse du Christ Seigneur en ces plus petits de ses frères dans l'humanité s'explique par son amour tout-puissant et pourtant humble envers chaque être humain. Tout-puissant car il embrasse l'humanité entière. Humble pour nous permettre l'espace d'une réponse positive ou négative libre. Ainsi, le mystère du frère est en même temps le mystère de notre liberté et de notre salut. le mystère du frère, où l'homme, vu avec les yeux du Christ, et dans l'amour éternel du Christ, révèle le fait que notre prochain demeure pour chacun ou chacune d'entre nous la plus grande chance ou le plus grand obstacle à notre salut. Le sacrement du frère est en effet le sacrement de la porte du royaume de Dieu, car le centre même du royaume de Dieu ouvert à l'homme, c'est le cœur aimant du Christ, Dieu homme. Même ceux qui se sont retirés dans le désert pour y cultiver par la prière permanente le plus possible la relation directe avec Dieu, car nous devons aimer Dieu de tout notre cœur-esprit, ont constaté et enseigné que l'entrée au royaume de Dieu ou notre salut éternel dépend de notre attitude envers le prochain. Saint Antoine d'Égypte le dit sous la forme d'une sentence que je cite. « La vie et la mort dépendent de notre prochain. En effet, si nous gagnons notre frère, nous gagnons Dieu. Mais si nous scandalisons notre frère, nous péchons contre le Christ. Prions. »
Les hommes étaient une bande de frères, ce serait tellement bien qu'on toucherait plus terre. Si les hommes étaient une bande de frères, il ferait tellement chaud qu'il n'y aurait plus d'hiver. On garderait nos frontières pour la beauté des rivières. On ne ferait pour l'amour. Si les hommes étaient une bande de frères, ce serait tellement bien qu'on toucherait plus terre. Si les hommes étaient une bande de frères, il ferait tellement chaud qu'il n'y aurait plus d'hiver. On garderait nos cris de guerre pour impressionner les coléoptères. On ne ferait de discours que sur l'amour, que sur l'amour. Si les hommes étaient une bande de frères, il ferait tellement chaud qu'il n'y aurait plus d'hiver. On garderait nos colères pour les films légendaires. On ne ferait de concours que sur l'amour, que sur l'amour. Bande de frères, bande de frères, bande. Si les hommes étaient une bande de frères.
Et du bon côté, on répond.
Bande de frères.
Si les hommes étaient une bande de frères.
Bande de frères.
Si les hommes étaient une bande de frères.
Bande de frères.
Si les hommes étaient une bande de frères.
Bande de frères.
Si les hommes étaient une bande de frères.
Si les hommes étaient une bande de frères.
De leur côté, les grands docteurs de l'Église, qui pour la plupart étaient en même temps liturges et pasteurs, ont exprimé avec force et talent le fait que le service rendu au prochain, qui est dans le besoin, ne relève pas tout simplement de l'éthique, mais plus profondément encore de la vie chrétienne. La communion au cœur eucharistique du Christ crucifié et ressuscité doit nous rendre toujours plus sensibles à la souffrance de tous nos frères pour lesquels Christ est mort et ressuscité. « Tu veux honorer le corps du Sauveur ?» dit saint Jean Chrysostome. « Ne le dédaigne pas quand il est nu. Ne l'honore pas à l'Église par des vêtements de soie, tandis que tu le laisses dehors, transi de froid et nu. Il faut à Dieu des âmes d'or. Honore-le donc en partageant avec les pauvres. » Pour saint Grégoire de Nice, les pauvres sont les gardiens du royaume des cieux. Et pour cette raison, il met en garde, et je le cite, « Ne méprisez pas les pauvres. Demandez-vous qui ils sont, et vous découvrirez leur grandeur. Ils ont le visage de notre Sauveur. Le sacrement de l'autel se répercute et se dilate dans le sacrement du frère. La célébration liturgique de la présence du Christ au milieu de son peuple est inséparable du service du frère. Nul ne peut recevoir dans l'Eucharistie le pardon et la paix de Dieu sans devenir un homme de pardon et de paix. Nul ne peut partager le banquet eucharistique sans devenir un homme de partage. Dans l'Église des trois premiers siècles, beaucoup de fidèles apportaient au rassemblement eucharistique non seulement le pain et le vin nécessaires à la célébration, mais les richesses qu'ils voulaient partager. Aujourd'hui, dans la liberté, il est urgent de redécouvrir le sacrement du frère comme étant sacrement salutaire. Il serait bon que nos sociétés repues arrivent à une ascèse collective qui permettrait une meilleure répartition des ressources mondiales, qui éviterait que le fossé ne s'approfondisse sans cesse entre les riches et les pauvres de la planète. Si, pour le monde qui se sécularise, la chance unique du salut reste le sacrement du frère, nous, consacrés dans l'Église et pour elle, nous devons aider les gens à redécouvrir le lien profond qui existe entre la prière comme source du véritable amour désintéressé et le service du prochain comme accomplissement de la prière, et compris dans une perspective sacramentale, le service du prochain, le service du frère, qui est beaucoup plus qu'une attitude éthique. Je vous l'ai déjà dit, il est le rayonnement de la liturgie eucharistique au-delà de l'Église bâtiment, ainsi que l'exercice dans le monde du sacerdoce universel de tous les baptisés. Le service du prochain, du frère ou de la sœur est donc œuvre de salut, car notre vie et notre mort devant Dieu dépend de notre prochain. Qu'as-tu fait de ton frère? Ce sera peut-être l'unique question à se poser chaque soir dans notre examen de conscience. Alors voici mon message de paix. Avez-vous oublié que vous êtes des êtres d'amour? Ne vous rappelez-vous pas que vous êtes incarnés sur la terre en 2008 pour faire l'expérience de la paix? Ne vous êtes-vous pas laissé piéger par la propagande du nouvel ordre mondial au lieu d'établir votre propre ordre intérieur? Nous vous rappelons qui vous êtes et nous sommes ici aujourd'hui pour vous aider à vous souvenir de votre vraie nature. Vous êtes les enfants d'un Dieu Père, amoureux des étoiles. Vous êtes les artisans de la paix. Vous êtes des êtres d'amour. Et consacrés et baptisés dans l'Église, nous sommes là pour vous aider tous à redevenir, à votre véritable nature, pour entourer la terre d'amour et de lumière. Dans l'Église, on est en sécurité dans les bras du véritable amour. Si vous voulez vivre dans un monde de paix, commencez par établir un monde en paix à l'intérieur de vous-même. Maintenez dans votre esprit des pensées de paix et agissez avec de l'amour dans votre cœur. Rappelez-vous que ce sur quoi vous vous centrez augmente en intensité. Laissez la paix entourer tout votre être. Laissez la paix être votre seul but. Ne regardez pas l'état du monde, car personne ne peut être en paix en regardant les problèmes du monde. La période actuelle est une période de nettoyage, de grande lessive, non seulement pour chaque être humain, mais pour la terre elle-même. Vous êtes inexorablement conduit vers la seule solution pacifique possible. Établir la paix dans votre cœur, là où vous avez tout contrôle. Ceux d'entre vous qui ont encore de la haine dans le cœur, ceux qui n'ont pas encore guéri des relations avec la famille ou des amis, ceux-là perdent leur temps à essayer de tenter d'apporter la paix dans le monde. Un aveugle ne peut pas aider des aveugles. Voici plusieurs manières de commencer à vivre dans une paix stable et immuable. Prenez un peu de temps pour noter le nom de vos relations non guéries. Ce sont vos problèmes personnels au sujet desquels vous pouvez faire quelque chose pour apporter davantage de paix dans vos relations, dans votre famille, dans votre quartier. Choisissez une relation avec une personne en particulier et ayez des pensées d'amour envers la personne concernée. Prenez l'engagement envers vous-même et envers les autres êtres humains de contribuer à apporter la paix sur la terre du Liban. Voici un serment pour les artisans de paix en n'importe quel lieu. Moi, et vous dites votre nom, moi Pierre, moi Paul, moi Tony, je m'engage envers tout être vivant à guérir mes relations avec les autres et à vivre dans l'amour et l'harmonie avec ma famille, mes amis, mes voisins, mes collègues de travail. J'entretiendrai des pensées de paix. Et lorsque je me surprendrai à avoir de la haine dans le cœur, je cesserai mon activité et j'attendrai jusqu'à ce que la paix me revienne. Je sais que c'est en me guérissant moi-même que je peux guérir le monde. Pourquoi ne pas vous engager à faire une pause, un arrêt à midi chaque jour et à avoir des pensées de paix? Et peut-être formerez-vous chez vous un groupe de prières silencieuses une fois par semaine et vous partagerez vos idées sur la paix et travaillerez ensemble à guérir votre esprit. Chers amis auditeurs, vous avez en vous des armes de construction massive. Servez-vous-en pour désarmer les pensées de haine et les terroristes qui se trouvent dans votre propre esprit. Bombardez le Liban et le monde avec l'amour. C'est pour vous la seule façon de gagner. Et répétez sans cesse, « Je sais que c'est en me guérissant même que je peux guérir le monde. » Quelle puissance dans cette affirmation. Et soyez certains que vos petites amies d'Abana à Toula Batroun veillent avec Jésus près de votre cœur. Tout est là, à Toula, Toula. Jésus y demeure. Sainte semaine. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.